Il est 18h15 à Zinder, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de la radio Gaskia de Zinder pour le forum Dissidio Kalangou qui s'intéresse au versement des redevances pétrolières 2014 pour la région de Zinder, enjeux, attentes et perspectives pour l'autonomisation financière des collectivités de la région. L'entrée à grands pas du Niger dans le processus de communalisation a posé le problème de pérennisation des ressources des collectivités. L'État a bien vu venir ce problème et a proposé des mesures réglementaires pour ce qui est des finances alloués aux collectivités. C'est du reste ce qu'avaient prévu les corps miniers et pétroliers. En effet, conscient de la faiblesse des finances locales, le législateur a attribué une rétrocession de 15% des redevances et autres impôts spécifiquement miniers ou pétroliers. Ainsi, la région des Andes vient de bénéficier d'un décaissement d'un montant d'un peu plus de 800 millions de francs CFA au titre de la rétrocession des 15% des redevances pétrolières. Pour rappel, c'est la loi 2014-11 du 16 avril 2014 portant un code pétrolier aval en son article 32 qui donne droit à la région de Zinder de bénéficier de cette rétrocession des 15% de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger salue ce geste et encourage le gouvernement a continué dans la même lancée en vue d'apurement des arriérés restants. En toute chose qui permettra aux collectivités territoriales de la région de Zinder de disposer de plus de ressources pour investir dans les secteurs sociaux de base. Pour développer ce sujet, nous sommes dans le studio de la radio Gaskia, l'une des principales radios partenaires du studio Kalangou de la région de Zinder où nous recevons Cheibou Tousoukou, secrétaire général du conseil régional du Zinder, Cheibou Tousoukou, bonsoir.
Bonsoir.
Hadiza Hima, coordonnatrice régionale du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Zinder. Hadiza Hima, bonsoir. Aboubakar Maman Gentil, secrétaire général du conseil de ville du Zinder. Aboubakar Maman Gentil, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sadat Iliad Malam, acteur de la société civile au titre du Zinder. Sadat Iliad Malam, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Monsieur le secrétaire général du conseil régional du Zinder, Cheibou Tousoukou, aujourd'hui, quelle est la situation des municipalités de la région du Zinder?
Merci Mokhtar, vraiment de cette occasion que vous nous offrez pour un peu effectivement parler de la situation de nos collectivités au niveau de la région du Zinder. Si nous sommes là, comme vous l'avez tout de suite souligné, que nous sommes là dans cette nouveauté qui est la première tranche, si vous voulez, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, que nous appelons communément redevance pétrolière. Et c'est vrai, nous venons d'avoir l'annonce d'une enveloppe, comme vous l'avez dit aussi, de près de 800 millions qui sont en train de venir pour les collectivités de la région des Andes. Et cette taxe provenait de l'État sur les activités effectivement donc du pétrole. C'est, je crois, c'est 15%, comme vous l'avez souligné, que l'État rétrocède donc à ces collectivités pour en faire face effectivement à des actions d'investissement. Parce que je tiens quand même à vous le rappeler, et vous-même vous l'avez souligné les textes, c'est cette manne ou cette ressource, elle est très bien encadrée par des textes juridiques. Notamment, il y a un décret qui cadre l'utilisation de la TIPP.
Avant d'aborder cette question, quelle est la situation actuelle des collectivités de la région du Zander? Est-ce que ces collectivités-là vivent mieux, fonctionnent normalement comme on les souhaite?
Bon, évaluer, dire moi, en tout cas, je ne veux pas évaluer, dire que les collectivités ils vivent mieux ou pas. Donc, si je dois me prononcer en ce sens, je ne peux que me prononcer sur ma collectivité qui est le conseil régional. Et franchement, en ce qui nous concerne, du point de vue fonctionnement, nous pouvons dire que Dieu merci. Vraiment, Dieu merci, nous arrivons régulièrement à payer nos salaires. Nous arrivons, en tout cas, à pouvoir fonctionner dans la mesure où les ressources du conseil régional sont des ressources qui provenaient pratiquement de l'État. Parce que nous ne faisons pas de perception directe. C'est l'État qui nous rétrocède un certain nombre d'impôts et taxes et ensuite des subventions qu'il nous envoie à travers l'Agence de financement des collectivités territoriales et notamment la plus grande manne importante pour nous, pour les investissements, c'est bien cette TIPP. Parce que quand vous prenez le contour de notre budget,
TIPP, il faut
la taxe intérieure sur le produit pétrolier, que nous appelons redevance pétrolière, en tout cas, elle est la partie la plus importante dans notre budget d'investissement. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous attendons depuis. Depuis 2016 déjà, avec l'adoption de notre plan de développement régional, nous avons déjà commencé à calculer, à liquider la part du conseil régional pour le prendre en compte dans le budget, pour pouvoir effectivement mettre en œuvre le PIA, donc le plan d'investissement annuel, qui sont inclus dans le plan de développement régional.
Cheboutou Zoukou, pour appuyer le développement local et permettre aux collectivités territoriales de mieux jouir de l'exploitation des ressources naturelles effectuées sur le territoire, l'État du Niger a prévu de rétrocéder 15%, je l'avais rappelé, des redevances minières et pétrolières au profit des collectivités territoriales abritant les industries extractives. À quand le versement intégral de ces redevances? Et quelles sont vos attentes pour la suite?
Donc pour cela, d'abord, nous pouvons nous remercier déjà donc du premier acte posé par le gouvernement, à savoir la liquidation de la recette ou de la ressource de l'année 2014. Mais nous ne pouvons pas nous dire que c'est suffisant, puisque nous attendons encore d'autres années d'AR où les montants sont plus importants. Donc vraiment, c'est ça notre souhait pour nous permettre, en tout cas, de mettre nos programmations d'investissement vraiment de manière à l'aise, pour que vraiment nous puissions aller vers notre population vraiment de manière positive, si je peux me permettre les termes.
Donc selon vous, c'est un ouf de soulagement?
Franchement, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement.
Aboubakar Momman Gentil, de la ville de Zander. La raffinerie de Zander est installée dans la commune de Wolelewa, environ 52 km au nord de la ville de Zander. Quels sont les profits, avantages et autres opportunités provenant des activités de cette société pour la ville de Zander?
Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Vous savez, par définition, effectivement, la ville de Zander constitue la ville, la seule ville de la région. On doit passer, par exemple, à toutes les transactions. C'est-à-dire, l'avantage, c'est que nous recevons beaucoup de camions qui viennent. Chaque camion, si vous prenez, il y a au moins le chauffeur, son apprenti et plus. Ça veut dire qu'il y a une population qui vient se greffer à la population réelle de la ville de Zander. Du moins, ce qui fait que le petit commerce, effectivement, c'est peut-être ça, c'est l'avantage.
Le commerce fleurit.
Oui, le commerce fleurit. La vendeuse du beignet trouve son compte un peu partout. Chacun trouve son compte par rapport à elle. Mais aussi l'inquiétude, effectivement, c'est quoi? Parce que...
Il y a aussi des inquiétudes.
Il y a beaucoup d'inquiétudes. En fait, même, elles sont plus inquiètes. Parce que à plusieurs reprises, on a rappelé. Parce que dès au début, le maire président du conseil de ville a pris un arrêté portant réglementation effectivement, de la circulation de ces gros porteurs qui rentrent dans la ville des Andes. C'est quoi le problème? Effectivement, vous voyez d'une façon délibérée des gens qui viennent au bord du goudron.
Et stationner n'importe comment.
Stationner un stationnement anarchique. Tandis qu'il y a un parking qu'un privé a fait à cet effet, effectivement, pour que ces systèmes sortent en dehors de la ville des Andes. Parce que vous savez, par les systèmes, même vide constitue un danger de société. Et à plus forte raison, les citernes remplies soit
du carburant,
soit
de l'essence, du gaz.
Gaz un peu partout. Ce qui fait que c'est ça un peu l'inquiétude, quoi, en fait. Et Dieu merci, la plupart des accidents qu'il y a eu, c'est du gasoil qui se déverse dans les télams. Et il y a plus de peur que de mal. Ce que nous avons comme protection civile se met à l'œuvre pour sécuriser les endroits. Et ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'accidents de grandes ampleurs. Chaque fois, cet accident, s'il y en a, c'est hors de la ville de Zander. Et Dieu merci, grâce à nos prières collectives, Dieu nous a préservés d'ici. Ce qu'on doit dire au-delà de cela, du truc de la ville de Lander, vous parlez de la société de raffinage. La société de raffinage, effectivement, qui est installée à 52 km de la ville de Lander, c'est déjà bien parce que, effectivement, là-bas, il y a ce qu'on appelle la façon que le raffinage se fait au niveau de la ville de Lander. Il y a la taxe intérieure des produits pétroliers que les uns et les autres peuvent recevoir. Ça, c'est une très bonne chose pour nous. Heureusement que cette taxe a été créée parce qu'au tout début, si vous prenez un peu dans l'histoire, c'était la redevance minière. Et la redevance minière, je parle, les différents conseils régionaux se sont un peu tirés chacun le droit de son côté. Le conseil régional, des fois, pensant que comme l'extraction s'est faite sous son terrain, dans ce cas, il lui revient la taxe, la redevance pétrolière. Et de l'autre côté, effectivement, l'intelligence a fait effectivement comme partout dans le monde, quand vous prenez une raffinerie, elle est distincte de là où il y a l'extraction du pétrole. Parce que si vous prenez même le cas du Nigeria, vous voyez où se trouvent les produits pétroliers au niveau du Nigeria. Vous avez vu, l'extraction s'est faite à Kaduna, qui est à des milliers de kilomètres, effectivement, du point. C'est un truc universel. C'est tout à fait juste, effectivement. Mais ça, ça nous a permis, effectivement, d'avoir droit.
Donc, Aboubakar Mamane Gentil, la raffinerie suscite autant d'inquiétudes que d'opportunités, selon vous?
Oui, autant d'inquiétudes que d'opportunités. L'inquiétude, je vous ai dit que la ville de Zander est traversée par des millions de camions qui sont chargés, effectivement, des hydrocarbures. Or, le chargement des hydrocarbures, quand les camions viennent passer, ça ne pose pas de problème. Mais quand les camions stationnent dans la ville...
Dans ce sens, est-ce que ce n'est pas à vous, la ville de Zander, d'initier des actions allant dans le sens de discipliner ces conducteurs de camions?
Effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit que le maire a déjà, en 2012, a pris un arrêté portant interdiction. C'est un arrêté, c'est un acte unilatéral.
Est-ce que cet arrêté est respecté sur le terrain?
Voilà, effectivement, c'est ce que je vais vous dire, c'est un peu la difficulté. Parce que c'est quoi? Quand on vit à Zander, quand on pense qu'on est des Zander, on a un camion, d'une façon délibérée, je vais dans mon quartier pour stationner mon camion, pour dire que le camion, c'est pour montrer à mes frères, à mes soeurs ou bien à mes amis que je suis conducteur d'un camion. Là, c'est un danger. Nous avons commencé effectivement à mettre de l'ordre par rapport à effectivement ce dérapage que les uns et les autres sont en train de faire. Ce qui fait effectivement, il y a la police municipale qui est en pleine activité effectivement. On est en train de vouloir discipliner ces gens. Ne serait-ce que quand un camion, c'est pour ça qu'il y a même un arrêté que le maire a pris récemment pour les heures de passage de ces camions.
Tout cela est pris en compte.
Est pris en compte, mais quoi que ça soit, puisque il était question d'une bretelle qui ne va pas passer dans la ville de Zander, qui va faire contourner de la ville de Zander et maintenant les camions peuvent passer. Là, il y a plus de tranquillité. Mais toujours est-il que quand un camion chargé d'hydrocarbures va passer dans votre agglomération, toujours est-il dit que vous avez un peu la main sur la poitrine. Ça, c'est tout à fait juste. Et en tant que musulman, en tant que père de famille, en tant que responsable, vous priez à ce que ce camion, dès qu'il rentre sur votre territoire jusqu'à sa sortie, que rien ne se passe.
Madame Hadiza Hima, le sous-sol nigérien regorge d'immenses gisements miniers et pétroliers, dont le plus important est l'uranium. Quelle est la contribution d'Urotab pour la transparence des industries extractives au Niger dans le cadre de la redevance minière et pétrolière au profit des collectivités territoriales abritant les industries extractives?
Merci, M. Mokhtara. En fait, c'est la mission du ROTAB, même en tant que tel, c'est le suivi. Donc, le ROTAB assure le suivi
régulier
dans les industries extractives. Et elle fait des actions pour amener l'État à faire la transparence, là où il n'y a pas assez de transparence.
Mais est-ce que vous êtes écouté, vous vous sentez écouté par l'État?
Oui, on est écouté, mais dans l'application, vraiment, il y a réticence. On ne peut pas dire que l'État n'écoute pas. L'État écoute, mais deux fois, avant d'agir, changer, ça prend du temps. Vous voyez, c'est un peu ça. Aussi, vers la communauté, on sensibilise aussi la communauté à s'investir d'avance dans la gestion des biens publics.
Est-ce que les populations des communes sont conscientes de l'importance de la rétrocession de ces redevances?
Oui, maintenant, pour la région du Zander, qui est ma région, la population a commencé à prendre conscience. Parce que c'est des trucs que c'est la première fois ici à Zander. Donc on ne peut pas dire que tout le monde a pris conscience à 100%. Grâce aux actions que le Rotab mène, il y a des conférences, sensibilisation, tout ça là, on peut dire que la population a commencé à prendre un peu conscience. Parce que davantage la population s'intéresse à la question.
Est-ce que les élus locaux sont impliqués dans vos actions de sensibilisation?
Oui, parce que à chaque fois qu'on a une activité sur les redevances, vraiment, la plupart, c'est la commune même qu'on essaie de dire d'organiser l'activité. Par exemple, si vous voyez Walaléo, on se déplace d'ici pour aller à Walaléo organiser des conférences, écouter la communauté, tout ça là, qu'est-ce qui se passe dans la commune, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça là, vous voyez. Donc, je dis que la commune est vraiment impliquée.
Est-ce que le mieux n'est pas d'impliquer les populations pour le suivi régulier de ces actions?
Oui, normalement, pour la pérennisation des actions, il faut vraiment impliquer la population. Et j'ai dit que la population, la société civile, ce n'est pas le Rotab seulement. On prend en général la société civile. On collabore avec tout le monde.
Les élus locaux,
les médias, tout ça là. On travaille avec toutes les couches. Vraiment, c'est une inclusion, quoi.
Ça fait plusieurs années que vous menez ces actions. Est-ce que l'impact est réel dans les différentes municipalités de la région?
Je vais dire que l'impact est vraiment réel. Si on prend, par exemple, un exemple concret, le cas de la région du Zander. Le Rotab et ses partenaires, ils ont mobilisé vraiment beaucoup de fonds pour un peu, je peux dire, amener l'État à vraiment donner à la région du Zander ce qui lui revient. Et les actions ne font que commencer parce qu'on n'a que pour 2014. On est en 2020, vous voyez. Donc on a aussi du boulot à faire.
Vous avez beaucoup de chemin à parcourir. Adiz Hima, malgré l'importance des ressources, les populations locales ne ressentent pas l'impact direct des revenus tirés des activités des industries extractives. Comment l'expliquer?
Je peux dire que vraiment Zander, c'est la première fois. Zander n'a pas encore eu quelque chose de l'industrie extractive pour dire que voilà, on a eu telle somme et qu'on l'a investi dans tel secteur ou bien tel secteur. Peut-être Walaléo même, parce qu'on a échangé avec le maire, il y a des taxes d'entrée des véhicules là. Ils n'ont jamais eu ça. Je ne sais pas ce qui
Mais est-ce que ce n'est pas la passivité des élus de cette commune?
Et là, je veux dire que peut-être c'est le maire qui est mieux placé. On n'a pas encore...
Mais vous êtes là pour le suivi,
oui,
régulier.
On est là pour le suivi, mais quand même, nous, on fait sensibiliser d'abord. Il faut que les jeunes comprennent, les élus comprennent et prennent conscience d'abord. On fait ça.
Est-ce que vous vous sentez écouté par ces élus locaux?
On collabore très bien. On a une collaboration parfaite avec les élus et même le conseil régional.
Sadat Iliada Malam, quelle est votre opinion au sujet des redevances minières et pétrolières au Niger de façon générale?
Donc, merci et le studio Kalangou pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler, n'est-ce pas, de cette question des redevances. Mais avant, moi, je voudrais, avec votre permission, relever un certain nombre de points en guise d'éclaircissement. Donc, pour éclairer la lanterne des gens, je voudrais d'abord évoquer les cadres juridiques de cette question des redevances. Cette question des redevances a d'abord été soulevée par la Constitution, qui a réparti, n'est-ce pas, les recettes issues de l'exploitation des ressources entre les budgets de l'État et les budgets des collectivités territoriales. Maintenant, pour se conformer, n'est-ce pas, un code pétrolier a été adopté. Et il faut le rappeler, le code pétrolier ne date pas de 2014. C'est un code qui date du 31 janvier 2017. Et déjà, 2007, donc c'est la loi numéro 2701 du 31 janvier 2007. Déjà donc, ces codes, initialement, avaient prévu cette question, n'est-ce pas, de redevance. Parce que les gens font la confusion pour dire que c'est en 2014 que la répartition a été consacrée. Non, déjà, le code de 2007, dans son titre 5, qui est relatif aux dispositions administratives et financières, à son chapitre 1, a parlé de retour et de répartition de recettes. C'est ainsi que, dans l'article 146, cette question, n'est-ce pas, de répartition des recettes, n'est-ce pas, a été soulevée. Et c'est très clair. Maintenant, de l'applicabilité, n'est-ce pas, de cette disposition, il s'est avéré qu'il y avait un certain nombre de difficultés.
Lié à quoi, selon vous ?
Lié à l'application même de l'article 146 du code pétrolier. Quelles sont ces difficultés-là ? La première difficulté, c'est que l'article 146 avait réparti les recettes entre les budgets de l'État et les budgets des communes. Alors que dans la Constitution, on a parlé des budgets de l'État et des budgets des collectivités territoriales. Et au regard, n'est-ce pas, du Code général des collectivités territoriales, vous allez voir que la collectivité territoriale, c'est aussi bien la commune que la région. Donc il y a eu un souci d'intégrer la dimension régionale dans cette question de répartition. Le deuxième problème qu'il fallait résoudre dans l'application de cette loi, c'est le problème de la zone de raffinage. Parce que dans l'article 146, il était question de répartir entre les budgets de l'État et les budgets des communes concernés par les opérations pétrolières. Or, le raffinage n'est pas une opération pétrolière parce que c'est clairement dit dans les dispositions générales de ces codes. Vous allez voir que les opérations pétrolières ont été définies. Donc, le souci d'intégrer la zone de raffinage aussi s'est posé. Maintenant, c'est que nous, on ne comprend pas. Dans le code initial, n'était pas question de la TIPP. Il était question d'un certain nombre. Avec votre permission, je peux lire les dispositions de l'article 146 pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre la démarche. Donc, il était dit, les recettes pétrolières constituées par la redevance ad valorem, les droits fixes et la redevance superficielle, déduction faite des ristournes concédées aux agents des ministères en charge des hydrocarbures sont réparties comme suit, 85% pour le budget national et 15% pour le budget des communes. Mais comme les jeunes...
C'est connu de tous.
Oui, mais comme les jeunes n'étaient pas suffisamment imprégnés du contenu de cette disposition...
Non, c'est le travail des
Non, c'est notre travail. Moi, je suis un collaborateur du Rotab. On travaille ensemble dans ce cadre et nous avons toujours fait cas de ça. Seulement ceux qui ont la charge de modifier la loi n'étaient pas suffisamment informés sur le contenu de la loi.
Ça veut dire que vos actions n'ont pas eu d'impact réel.
Non, ça a eu d'impact. Parce que si effectivement le souci de corriger la loi a été pris en compte, c'est parce que nous avons agi, c'est parce que nous avons appelé qui des droits pour faire comprendre. Ce débat-là, nous l'avons fait la veille même de l'inauguration de la raffinerie des Andères. Et depuis le jour, nous avons montré que la région des Andères n'est pas concernée en termes de raffinage, mais la région des Andères était déjà concernée en termes de transport par canalisation. Parce que le transport canalisation, c'est une opération pétrolière qui est assujettie au paiement de la redevance. Donc, ceux qui ont modifié cette loi n'étaient pas suffisamment informés. Et vous savez, les politiques, ils ont fait en sorte que pour ne retenir que la TIPP, qui, à notre avis, est très médiocre par rapport à ce qui a été initialement...
Vous êtes senti lésé.
Voilà. Donc, les gens sont partis dans la précipitation. Et même maintenant, quand vous allez poser les problèmes, vous allez comprendre qu'il y a encore une insuffisance de compréhension de cette loi portant code pétrolier au Niger. Donc, ça, c'est par rapport à la clarification que je voudrais apporter, n'est-ce pas, par rapport même au contenu de la loi. Donc aujourd'hui, dire que c'est grâce aux actions de 2014 que Zander va bénéficier, moi je ne suis pas d'accord avec ça.
Sadat Iliadam Malam, au-delà des prélèvements spécifiques prévus dans le code minier et pétrolier, les sociétés minières et pétrolières sont également soumises à d'autres prélèvements fiscaux qui relèvent du droit commun. Comment expliquer l'état de pauvreté dans lequel végète le Niger et sa population?
Ça s'explique par la mauvaise gestion, par l'incapacité de ceux qui ont la charge de cette gestion-là, notamment les autorités à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales. On a l'impression qu'il y a même une certaine opacité qui est entretenue autour de cette question. Et c'est le lieu de remercier la société civile, notamment les Rotab, qui fait des efforts pour amener les gens à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des dispositions fiscales que ça soit dans les codes pétroliers ou dans les codes miniers du Niger. Mais dans certaines mesures, nous avons vu que nos autorités, l'État, a des difficultés à faire respecter la loi avec certains partenaires. Et nous l'avons vu avec Areva, quand il était question de respecter les dispositions fiscales du code minier du Niger, ils ont été incapables de les faire. Donc, il y a une complicité entre l'État et ces sociétés minières-là, à travers, n'est-ce pas, des choses qu'on donne aux gens, en termes de gratification, je ne sais pas de quelle nature. Donc, tout ça, là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont incapables de dire un mot sur tout ce qui se passe en termes de catastrophe, même au-delà du non-paiement, du refus de payer. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, là, quoi qu'on dise, la région des Andes n'est pas rentrée dans son
mais
droit.
Mais pourquoi vous ne pouvez pas appuyer ces élus locaux mais pour que la région rentre dans ses droits?
Oui, nous les faisons quotidiennement. Et je suis fier que nous étions les premiers à amener le conseil régional sur les terrains. Moi, je fais partie des premières structures qui ont fait mobiliser le conseil régional par rapport à une question de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas que cette question de redevance. Il y a beaucoup de questions qui sont attachées à cette question de l'exploitation minière et pétrolière. Il y a la question de la redevance, c'est vrai. Il y a la question de l'expropriation des terres mêmes qui sont concernées. Et il y a la question de l'impact environnemental qui n'a jamais fait l'objet de transparence, nonobstant les dispositions pertinentes relatives à la surveillance administrative qui sont consacrées par les codes en question. Donc voilà, les gens négligent leur partition véritablement et même les petites actions qu'ils arrivent à faire, c'est sous les impulsions de la société civile que nous les amenons à faire des actions. Et je ne dis pas tous, mais je suis convaincu que maintenant elle a évoqué un problème. Moi, j'ai eu vent de ces problèmes-là, notamment par rapport à la taxe sur les chargements des hydrocarbures.
J'ai approché
le maire de Malalewa. Il m'a fait comprendre que la taxe sur les chargements est prélevée par la ville des Andes. Et que quand les camionneurs arrivent à Walalewa, c'est à Walalewa qu'on charge, mais c'est à Zander qu'on prélève la taxe. C'est le maire de Walalewa qui nous a dit ça. Et je me souviens, à l'époque, nous avons approché le conseil régional pour voir comment cette question pourrait être résolue afin de permettre à chacun de jouer sa partition et de tirer son profil.
Chebou Tsoukou, comment améliorer l'efficacité et l'utilisation des 15% des redevances minières et pétrolières aux communes des régions abritant les industries extractives au Niger?
Merci Mokhtar. Vous avez déjà souligné que l'utilisation de cette taxe-là est encadrée par un décret qui dit comment ce fonds-là doit être utilisé. De ces 100% de ces fonds, il est bien dit que les communes doivent prendre 85%. Il y a les 5% pour le suivi des services techniques et de concentré de l'État, et les 10% vont aller au fonctionnement. Donc, ça veut dire que le 85% de ce montant, il est dédié à l'investissement. Or, toutes les communes aujourd'hui ont leur planification de développement. J'espère que c'est seulement l'arrivée de ces fonds qui est attendue pour mettre en œuvre les actions de développement. Je crois que dans la région des Ender, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une seule commune qui n'a pas son PDC.
Les communes ont leur plan de développement communaux, mais est-ce qu'ils ont suffisamment de ressources pour mieux fonctionner?
C'est de ça que je dis, c'est ça le gros de problème. Je commence par chez moi, qui suis aussi une collectivité. J'avoue que nous avons un plan de développement
ambitieux.
Ambitieux, vraiment.
La plupart des plans sont
ambitieux. Je vous dis que c'est très ambitieux, avec des PIA bien formulés. Si jamais ou si on avait des ressources suffisantes aujourd'hui, je pense que la question que vous allez nous poser, c'était de nous demander mais comment vous êtes arrivé là, Mokhtar. J'avoue que c'est le manque de ressources. Nous, en tout cas, au niveau du conseil régional, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas dépasser directe, c'est quelques 5 taxes auxquelles l'État nous a rétrocédé quelques taux, dont le plus grand taux c'est 20%.
Il y a l'appui de certains bailleurs de fonds.
Oui, ça aussi, et si vous prenez à part quelques deux programmes qui sont là, où on joue plus ou moins une sorte de maîtrise d'ouvrage, mais en vérité même les partenaires quand ils viennent, nous sommes que acteurs.
Mais est-ce qu'il ne vous revient pas à faire des plaidoyers vers d'autres partenaires?
C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Et Dieu merci, effectivement, à travers ces partenaires aujourd'hui, je peux vous énumérer beaucoup de choses, beaucoup d'actions que le conseil régional a amené, effectivement, pour mettre en œuvre son PDR. Ce que ici, je suis en train de dire, c'est que nous, notre participation doit être aussi conséquente. Et elle ne peut être conséquente que si nous disposons de ces ressources, surtout cette TIPP-là, communément appelée la redevance. Quand vous prenez, et je vous avais dit, que c'est depuis 2016, avec l'adoption du PDR, que nous avons commencé à budgétiser l'autre part. Oui, à espérer. Parce que nous avons un PDR qui est ambitieux, qui tourne autour de près de 800 et quelques milliards, je crois, sur les 5 années. Vous voyez ? Et chaque année, quand je vous prends, la participation, en tout cas, de la TIPP tourne aux environs, dans sa participation au niveau du budget d'investissement, tourne aux environs de 60 à 55%.
Aboubakar Mamane Gentil, aujourd'hui, quelles sont les préoccupations des populations de la ville du Zender?
Permettez-moi, avant d'entamer ce sujet, en fait, ce débat, c'est très important pour moi, à double recul. D'abord, en tant qu'ancien, ou bien jusqu'à présent, je continue à être en cadre supérieur des sciences appliquées. En fait, j'ai fait les recherches minières au Niger. Agadem, le pétrole de l'Agadem, quand je l'ai vu sur la table de notre directeur, c'est dans les années 80. En fait, je connais toutes les dispositions. Et bien avant 2007, on utilisait le code minier qui, en notre temps, on l'utilisait pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, effectivement, si vous prenez le paysage effectivement, de ce pays, effectivement, un effort considérable a été fait. En fait, on est parti d'un embryon à quelque chose aujourd'hui qui est évasif. Reconnu sur l'ensemble. Si ceux qui m'écoutent, vous pouvez prendre le plan minéral fait par le Niger, vous trouverez toutes les substances, la répartition au Niger. En fait, c'est une bonne chose. Toute chose, il y a un début, mais toute chose, il y a une évolution. Vous avez vu, j'étais minier, je suis devenu administrateur pour avoir retourné m'asseoir sur le cycle 3 d'une école d'administration. Les mines et l'administration en relation, effectivement, et ça me permet d'avoir une vision. Tout ce que les uns et les autres disent, c'est tout à fait juste. Hein? C'est l'homme. L'homme est au cœur du développement. Il est fait par lui et pour lui-même. En fait, c'est ça la grande philosophie qu'il faut retenir. Les textes, nous sommes en train d'améliorer les textes. Parce que si vous prenez, c'est le brut. Vous avez vu, si vous prenez même dans le domaine du pétrole, le brut, c'est Agadem. Le raffinage, c'est au niveau de Zender. En fait, il y a des étapes pour que l'individu, le commun des Nigériens, mette ce carburant dans son véhicule pour circuler. On ne peut pas utiliser le brut, il faut le raffiner. Quand on nous vend tout ce processus, comme j'ai dit, chaque chose a son temps. Quand je vous ai parlé des aires où nous avons vu le pétrole d'Agadem, parce qu'on pensait à un certain moment donné que ce pétrole, son raffinage serait ici, on peut l'amener, ça c'est la politique qui fait ça. Mais seulement il faut comprendre, là où on sort le pétrole, on ne le raffine pas là, parce que ça c'est des dispositions universelles, rares, peut-être pour des petites consommations. Si vous prenez des pays avancés comme l'Union soviétique, eux directement on extrait, on raffine pour permettre à la population locale. Mais d'une façon générale, ça a eu un impact formidable dans la vie des citoyens. Pourquoi le dire, le fait même d'échanger? Quand on échange, déjà, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai dû comprendre mon ami de la commune de Waleria qui pense que la ville de Zandri est en train de prendre une taxe. Si vous prenez au Niger, toutes les communes, souvent, on a parlé de communes. Au terme des textes réglementaires en vigueur, notamment si vous prenez même la loi 2008-42 relative à l'organisation et à l'administration du territoire de la République du Niger, elle a fait des circonscriptions administratives en son article 4 à part et les collectivités territoriales à part. Les collectivités territoriales, vous avez la région et les communes. Et là, dans les communes, vous avez trois types de communes. La commune à statut particulier, la commune urbaine et la commune rurale. En fait, le maire d'une commune à statut particulier et le maire d'une commune urbaine, comme le maire d'une commune, tous sont maires. Président du conseil. Ils sont représentants de l'État chargés de respecter et faire respecter les lois et règlements de la République. Ça veut dire qu'ils ont une entité. Ça rappelle les éléments constitutifs de la décentralisation qui sont, si vous les prenez, un territoire, un pouvoir organisé, une tutelle et des affaires locales internes. En fait, ça veut dire que tout conseil s'organise pour effectivement gérer son territoire par rapport aux dispositions de l'État. L'État souverain a rétrocédé certaines taxes et impôts. On nous a dit de les recouvrer pour fonctionner. On a dit même à la population, puisqu'il s'agit des élus, c'est la libre administration. Vous avez élu vos dirigeants, dans ce cas même votre propre taxe, il faut leur donner pour fonctionner.
Alors aujourd'hui, est-ce que les populations du Zender payent l'impôt?
Voilà, si vous me posez cette question, je suis avec un élément de la société civile qui nous ont beaucoup aidés dans le cadre, effectivement, de faire une sensibilisation pour dire que la ville, c'est la libre administration. Il y a eu des élus qui sont sortis de la population. Et l'État souverain a rétrocédé certains impôts et taxes à ces collectivités, effectivement, pour fonctionner. Dans ce cas, l'argent se trouve où? Ce n'est plus, nous n'avons pas le même système
de perception de...
Pas le même système de fonctionnement que le conseil régional. Le conseil régional, son secrétaire général vient de vous définir où il reçoit les taxes. Mais nous, on nous a dit que les taxes se trouvent au niveau de la population. Et c'est l'impôt rétrocédé. À part des grandes taxes qu'on reçoit dans le cadre des perceptions de la DGI, de trucs comme ça, où il y a une clé de répartition. Mais c'est la population qui doit donner cette taxe, parce que c'est quoi? C'est la gestion de proximité. Et quand vous parlez de gestion de proximité, c'est-à-dire que c'est une gestion pour vous-même. C'est-à-dire que la taxe municipale, la taxe de voirie, il faut la payer. Vous savez que vous avez parlé d'un problème qui est très délicat. L'incivisme, je le dirais, la taxe municipale et la taxe de voirie, c'est quand M. X veut une carte d'identité. Quand M. X veut un certificat de résidence,
c'est en ce temps-là qu'il paye.
Qui va au niveau de la police. Mais toujours est-il, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des vrais citoyens qui s'acquittent de leurs droits et obligations.
Hadiza Hima, du Rotab, comment éviter la malédiction des ressources naturelles dans un pays pauvre comme le Niger?
Et là, j'ai dit que vraiment, c'est un travail de collectivité. Les collectivités doivent faire un travail vraiment inclusif.
C'est-à-dire impliquer tout le monde?
Impliquer tout le monde, surtout dans l'élaboration du BTG. Prendre en compte les besoins de toute la population et investir dans les secteurs sociaux de base. Et là, tout le monde pourra profiter, surtout un pays comme le Niger.
Est-ce que vous faites ce genre de plaidoyer au niveau du gouvernement nigérien?
Bien sûr, c'est notre activité principale, l'analyse budgétaire. Pour preuve, maintenant même, on est en train d'organiser un débat par rapport à ça, le partage des résultats du budget, de la session budgétaire 2020. Vous voyez, c'est un peu ça.
Est-ce que le gouvernement est conscient de l'importance de votre combat?
Oui, on peut dire que le gouvernement est conscient parce que, si vous vous rappelez, l'année 2018, le combat sur la loi de finances, l'État est revenu sur d'autres choses. Mais ce n'est pas affiché pour dire que voilà, c'est grâce aux actions de la société civile, mais on sait que l'État est revenu sur d'autres choses.
Dites-moi, quels sont les obstacles rencontrés jusque-là par votre structure, le Rotab?
Voilà.
Rapidement.
Les obstacles rencontrés par le Rotab, la plupart des fois, c'est le partage avec les directions.
C'est-à-dire?
Des fois, on a besoin des données, surtout sur les investissements de l'État. On a besoin des données d'une direction ou bien d'un ministère. Vraiment, c'est pas facile d'accéder à ces données-là. Ils refusent le partage, alors que c'est un droit. Vous voyez, c'est ça le grand problème que le Rotab rencontre.
Sadat Iliada Malam, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez le plus les autorités locales et même le gouvernement?
Bon, vraiment, les chantiers sur lesquels on attend les autorités nationales et les autorités locales sont nombreux. N'oubliez pas que nous sommes au Niger. Nous sommes toujours classés derniers en termes d'indice de développement humain. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans ces pays-là pour quand même permettre un développement durable de ces pays-là. La première chose à laquelle nous attendons, c'est l'affectation de ces ressources-là dans le domaine prévu par la Constitution. Parce qu'au Niger, il faut le reconnaître que la Constitution a résolu le problème des dépenses des recettes issues de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol. C'est très clair. Ils doivent être investis, on a dit, dans les domaines prioritaires. On a parlé de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de la création d'un fonds pour les générations futures. Aujourd'hui, donc, au Niger, on constate que l'école va très très mal. Alors que la Constitution a prévu des mécanismes de financement de l'école et de la santé. Notamment, on a dit les recettes issues. On n'a pas dit la TIPP, c'est faux. C'est les recettes issues de l'exploitation des ressources. Toutes les recettes doivent être affectées au développement de ces pays-là. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes toujours derniers. Aujourd'hui, notre système éducatif est à terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas un système sanitaire efficace qui répond aux aspirations de la population. Donc, vraiment, il y a beaucoup de défis.
Il y a beaucoup de défis, selon vous, Sadat Iliada Malam. Quel est l'apport de la société civile pour aider les populations et les autorités locales à faire avancer les choses dans la région du Zander?
Effectivement, nous sommes des accompagnants. Nous accompagnons l'État dans toutes ses politiques, même si parfois nous sommes mal compris par ces derniers, parce que quand nous avons mené la lutte pour la loi des finances, pour aider la population, c'est conscient de la situation dans laquelle nos populations sont et que nous sommes convaincus qu'avec les dispositions qui alourdent, n'est-ce pas, la vie dans ces pays-là, on ne peut pas permettre aux citoyens de faire face à d'autres défis. C'est pourquoi nous avons toujours aidé l'État, nous avons aidé les collectivités et nous avons toujours sensibilisé la population par rapport au cadre légal, par rapport au cadre juridique et institutionnel de la République, afin de leur permettre de mieux jouer leur partition.
Cheikh Boutouzoukou, arrêtez rapidement.
Oui, ok. Donc, merci, Monsieur Mokhtar. C'est juste
pour compléter
Hadiza. Hadiza avait effectivement posé un problème par rapport à leur consultation. J'ai dit que, vraiment, on les a, du moins, globalement, la population, puisqu'il y a une phase, déjà, la loi qui l'a dit, phase de consultation à l'occasion de l'élaboration du budget. Et ça, je lui dis et je le répète, et à chaque fois qu'ils sont à nos portes, nous leur avons toujours rappelé que nos sessions sont publiques, sauf des cas exceptionnels. Donc, on a toujours convié cette même population. La société civile, nous l'avons, je crois, toujours partagé, notre budget. Rien qu'avant-hier, ils avaient passé, on a échangé sur cette même question. Et on leur a dit nos ambitions. Je voudrais aussi un peu relever...
Rapidement,
merci bien. Relever un peu, donc, si je me permets, corriger le EG, qui pensait que c'est seulement le conseil régional qui reçoit des impôts rétrocédés. Non,
je n'ai pas dit ça.
Bon, soit... De toutes les façons, le taux que le conseil régional reçoit, hein, voilà, c'est 5 impôts seulement, à des taux de 10%. Si vous prenez la taxe immobilière d'ailleurs qui a disparu, l'État a repris sa chose, 10%. Et les impôts synthétiques, 10%. Taxes professionnelles, 20%. Contribution des licences, 20%. Et droits d'enregistrement, 5%. Tous les autres, c'est pour les communes. Les communes et les villes qui reçoivent maintenant les 80 et 90%.
Voilà. Rapidement.
Non, moi, je voudrais rétorquer par rapport à ce qui dit le SG de la ville. Non, c'est important. Parce que le débat là que nous avons, il a aussi une portée pédagogique.
Regardez.
Je crois que la ville des Andères, au-delà des impôts rétrocédés, c'est très clair qu'elle reçoit. Elle a aussi un certain nombre d'infrastructures qu'elle gère. Mais aujourd'hui, concrètement, s'il y a un civisme dans la ville des Andères, nous avons compris que c'est à cause de la mauvaise gestion de cette ville-là. Et nous avons interrogé les populations. Pourquoi vous?
Oui, bon, Aboubakar, Maman Gentil, vous n'avez pas la parole, ça date. Laissez-le s'exprimer. Oui, allez-y.
Monsieur le SG du conseil régional, je sais très bien le fonctionnement, c'est pour ça que j'ai fait la part des choses. Au terme de la loi 2008-42 relative à l'organisation et l'administration du territoire de la République du Niger, j'ai dit que les collectivités territoriales sont le conseil régional et les communes. Mais si on parle de collectivités territoriales, en fait, je parle aussi du conseil régional. Si on dit qu'on a rétrocédé certaines taxes et impôts aux collectivités territoriales, effectivement, c'est dans cet esprit que je vois. Mais maintenant, la réalité des choses, vous êtes aux affaires. Vous savez ce que vous recevez communément qu'on avait appelé des cadres au niveau des recettes de la région des Andes. Je le sais. C'est pas que j'ai dit que vous avez ça, vous avez un certain des impôts que vous recevez. Et aussi, je dois préciser effectivement, dans le cadre effectivement de tout ce qu'on vient de dire, vous avez les redevances pétrolières qui sont redevances pétrolières ou minières. Ça, c'est l'appellation qu'on a donne. C'est au niveau des régions de Diffa, Agadez et des trucs comme ça. Et maintenant, vous avez la taxe intérieure professionnelle qui relève de la région des Andes. Et maintenant, vous avez aussi la taxe professionnelle qui relève de la commune de Wolelewa. Et tout ça, un texte d'application a dit comment l'utilisation se fera. Et pour dire le camarade Sadat qui parle que, effectivement, les infrastructures qu'il voit aujourd'hui dans la ville des Andes, c'est un bien commun, c'est un bien de tout le monde. C'est lié à ce qu'on a soutenu et défendu avec eux. C'est lié à l'incivisme fiscal. Qui est à la base de l'incivisme fiscal? Il faut poser un point d'interrogation.
Voilà, la création des collectivités territoriales a imposé à l'État la mise à leur disposition des ressources financières adéquates pour soutenir les actions de développement local. Les ressources financières des collectivités territoriales comprennent les dons et subventions octroyées par les partenaires techniques et financiers, le produit de la fiscalité locale, les produits de la fiscalité rétrocédés par l'État et les recettes minières et pétrolières rétrocédées par l'État aux communes des régions dans lesquelles sont effectuées les opérations minières. Et nous sommes au terme de ce forum Décidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Cheikh Boutouzoukou, secrétaire général du Conseil régional de Zander, Hadiza Hima, coordonnatrice régionale du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au TAB Niger, Aboubakar Maman gentil, secrétaire général du conseil de ville de Zander, et Sadat Iliad Malam, acteur de la société civile à Zander. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.